Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec des sons et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélus, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui David Federman et Nicolas Slimani.
Au sommaire cette semaine, nos droits contre leurs privilèges et évasion fiscale des multinationales, rendez l'argent!
Avec les élections aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas d'argent. Il faut dire l'impôt c'est important, la fraude fiscale c'est grave, l'évasion fiscale il faut y mettre un terme.
C'est un espace commun qui s'appelle nos droits, leurs privilèges. C'est un espace qui vise à dépolluer toutes les conneries qui se racontent dans la campagne électorale.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux?
De mémoire d'enquêteurs financiers, cela ne s'était jamais vu. Lundi 13 mars, 25 fonctionnaires de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, un service créé en 2013 suite à l'affaire Cahuzac, ont adressé au directeur de la police un courrier qui en dit long. Ils dénoncent pêle-mêle le manque d'effectifs, une absence de considération et des pressions politiques, voire carrément des menaces de représailles. Bref, derrière les belles déclarations d'intention, il semble que nos responsables politiques ne se donnent pas vraiment les moyens de lutter contre la délinquance en col blanc et par là donc de faire rentrer l'argent de la fraude fiscale dans les caisses de l'État. Et pourtant, chaque année, ce sont 60 à 80 milliards d'euros qui échappent ainsi à l'impôt, l'équivalent de la dette publique de la France. Alors, un an après le scandale des Panama Papers, les acteurs de la société civile lancent une grande campagne « Rendez l'argent ». Dès ce matin et pendant toute la semaine, des actions sont organisées partout en France pour rappeler aux candidats en campagne que de l'argent, il y en a. Avec Guy Vanctil, on va donc partir du côté des beaux quartiers pour un lobby tour spécial évasion fiscale. Mais tout de suite avec Antoine Chao, direction la Société Générale, pour le début des festivités. Comme un bruit qui court, évasion fiscale, rendez l'argent, c'est jusqu'à 17h sur France Inter, et c'est parti.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
C'est parti, une nouvelle action, samedi 1er avril, menée par Attac pour la semaine contre l'évasion fiscale. Et là, on arrive sur les Champs-Élysées et on va découvrir la cible. Les échelles, les banderoles, Panama Papers. Alors Aurélie Trouvé, ça y est, on le découvre, c'est la Société Générale.
C'est la Société Générale. En fait, ça fait un an qu'il y a eu le scandale des Panama Papers qui a révélé que la Société Générale avait 1005 sociétés écrans offshore au Panama. Et donc, nous venons rappeler à la société, mais surtout au pouvoir public, que la Société Générale est un grand acteur de l'évasion fiscale. Un tiers de ses bénéfices dans ses activités internationales sont réalisés dans des paradis fiscaux. Un tiers des bénéfices.
Maestro, on va mettre la musique. Parce que ça se fait en musique, ça aussi. Hein. On y va.
Panama.
Alors, les amis, soyez bien entrés dans le corps.
Super.
Alors voilà, donc on a notre message principal qu'on est en train de hisser. Rendez l'argent, rendez-nous ces milliards.
Voilà, c'est le lancement de la semaine d'action contre les paradis fiscaux. Et donc cette action n'est pas la première, il y en a eu déjà à Marseille, il y en a eu autre part dans Paris. Il va y en avoir encore beaucoup toute la journée. Et donc on veut vraiment mettre fin à l'opacité fiscale en dénonçant l'évasion fiscale des grandes entreprises et des particuliers qui bénéficient des services des banques. Et c'est pour ça qu'on est ici, à la Société Générale. Donc merci à tous.
Et là, il y a la police qui arrive et commence à essayer d'embarquer les militants d'Attac, la trentaine de militants qui viennent de finir l'action.
Alors que finalement, eh bien, ceux qui font prospérer l'évasion fiscale n'ont aucun problème, malgré les révélations des Panama Papers il y a un an. Donc vous voyez, et comme d'habitude, les lanceurs d'alerte, les citoyens qui se mobilisent contre l'argent volé des contribuables, eh bien voilà comment ces citoyens-là se retrouvent au poste et pas les réels responsables.
C'est l'évasion fiscale en bande organisée.
C'est Et voilà comment les militants d'Attac, venus dénoncer les pratiques d'évasion fiscale de la Société Générale, se sont fait embarquer manu militari, quand Frédéric Oudéa, le PDG de la banque, lui, n'est nullement inquiété. C'était ce matin même, et ce n'était pas un poisson d'avril, car aujourd'hui débute la semaine mondiale d'action contre l'évasion fiscale, un an après le scandale des Panama Papers.
Les Panama Papers ont dévoilé les rouages d'une évasion fiscale à l'échelle globale. Alors à l'occasion de cette semaine d'action mondiale, je vous propose de partir pour un nouveau lobby tour spécial évasion fiscale, pour se faire expliquer comment les multinationales utilisent tous les moyens pour se soustraire à l'impôt avec la complicité de banques et de cabinets de conseil. Apple délocalise ses profits en Irlande pour payer moins de 2% d'impôt en France, pendant que Starbucks France verse des royalties à sa filiale aux Pays-Bas pour payer 0% d'impôt sur les sociétés chez nous. Charlotte vous l'a dit, ce sont chaque année près de 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt en France, mais 1000 milliards au niveau européen. Autant d'argent en moins pour financer l'action publique.
Et ça ne vous a pas échappé, la campagne a commencé. Non, pas la campagne présidentielle qui débutera officiellement le 10 avril, mais la campagne officielle du mouvement social « Nos droits contre leurs privilèges ». Une campagne unitaire lancée en février par une cinquantaine d'organisations, syndicats et collectifs citoyens pour faire entendre leur voix et leurs revendications et qui participe bien évidemment à cette semaine contre l'évasion fiscale. Mais pour démarrer la campagne, il fallait un QG du mouvement social. C'était le 26 février, première étape de la convergence des luttes d'une société civile qui s'organise pour interpeller les candidats de la présidentielle.
Stop, stop, stop à l'évasion fiscale !
Ça ne vous plaît peut-être pas, mais c'est la réalité.
Et pour nos droits, pour leurs privilèges, on y va ! Allez, allez, allez !
Chambre de commerce de Paris.
Premier étage, il y a une grande salle avec...
Premier étage.
Voilà, donc c'est une occupation de la Chambre de commerce de Paris.
Nous sommes là dans le cadre de la convergence des luttes non-droits contre leurs privilèges. Nous faisons une action avec toutes les organisations, c'est-à-dire Solidaire, le MNCP, le DAL, ATTAC, FSU, La Paix, SAC, beaucoup d'associations et des familles qui ont besoin d'un logement. Donc elles sont également là pour dénoncer le fait qu'il y a des endroits publics vides avec des espaces grandioses et des gens qui dorment comme en face dans la rue. Ça, on ne peut pas le supporter, on ne peut pas l'accepter, nos droits contre leurs privilèges.
Et il y a aussi autre chose, c'est que ici on ouvre aujourd'hui parce que c'est aussi notre QG de campagne pour le mouvement social. On espère y rester un bon bout de temps, pas seulement pour les présidentielles, mais aussi pour les législatives, pour se faire entendre, parce que les candidats à la présidentielle, hormis quelques-uns, on ne veut pas les rencontrer comme on le fait dans d'autres cadres, c'est-à-dire on veut les rencontrer ensemble. Et nous, le MNCP, on est partie prenante de ces actions-là, parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être ensemble, surtout avec ce qui nous attend. Voilà.
Une première action très symbolique pour lutter contre le mal logement, plus précisément les immeubles vacants.
La politique, dans les prochaines semaines, on ne va pas attendre qu'elle nous vienne que des élections. Elle va aussi se trouver dans les rues, dans les mobilisations. Il y a ici des milliers de mètres carrés totalement vides.
Une action à l'initiative du collectif Nos droits contre leurs privilèges, lancé le 13 février.
Nos droits contre leurs privilèges. Il y a une grande banderole qui va être tendue dehors, hein. C'est ça, ouais.
Pardon, ouais. C'est la banderole qui va être tendue dehors. Nos droits contre leurs privilèges. C'est pour dénoncer tout ce qui ne va pas et qui ne sera pas abordé dans la campagne électorale.
Et donc c'est le nouveau QG de campagne, hein, c'est ça
de... C'est le QG de campagne de la convergence des luttes.
Bon, Annick, coupé, il était quand même temps d'avoir des locaux en dur, hein, pour ouvrir le QG de campagne du mouvement social.
Bah oui, donc on est super content d'être là parce que c'est à la fois effectivement l'idée de faire un QG de campagne des mouvements sociaux avec l'appel Nos droits contre leurs privilèges et en même temps de faire aussi une action très concrète pour le droit au logement avec des familles mobilisées par le DAL. On n'a pas eu besoin de venir de loin puisque effectivement on s'est retrouvé Place de la République qui est maintenant un symbole des luttes sociales, des mouvements sociaux, des révoltes, des colères.
de se retrouver ensemble, d'être dans la convergence parce que c'est aussi ça qu'on veut porter, et puis dire aussi ensemble que l'argent, il y en a, hein, de dire qu'on pourrait gagner sur nos droits, de dire aussi que le racisme, l'islamophobie, le racisme anti-noir, le racisme anti-rom, il y en a assez et qu'on ne peut pas laisser gangréner la société, et de dire aussi que l'état d'urgence, ça suffit, parce que ça réduit nos libertés publiques, nos libertés collectives, nos libertés individuelles, c'est maintenant un état permanent, et ça, c'est pas acceptable non plus. Donc c'est autour de ça qu'on veut faire entendre la voix des mouvements sociaux dans les jours et les semaines qui viennent à partir de ce QG. Et notre idée, c'est que de toute façon, quel que soit le résultat de ces élections, eh bien, on aura besoin de convergence, on aura besoin de mobilisation sociale. Donc c'est aussi une façon de préparer l'après-campagne électorale.
En piste avec le mégaphone.
Donc, rappelle ici, on est là tous ensemble, divers mouvements sociaux, propos de mouvements sociaux, des syndicats, des...
Les occupants ont finalement été évacués par la police hier en fin de soirée. Ils annoncent une prochaine action le 22 avril, place de la République.
Faire entendre nos revendications, nos résistances, nos alternatives et le faire en convergence.
Et pour nos droits contre leurs privilèges, on y va!
Jean-Baptiste Hérault, le DAL, droit au logement. Vous faites partie des organisations à l'initiative de la campagne, hein, ou de la contre-campagne, nos droits contre leurs privilèges.
C'est ça.
Il y a eu toute une série d'actions déjà, notamment à quelques pas d'ici, on est devant la Bourse du Travail parce qu'il va y avoir des prises de parole, il va y avoir une réunion ici publique. Mais il y a quelques semaines, juste à quelques mètres d'ici, à une centaine de mètres, donc il y a eu la tentative de monter un QG de campagne, hein, un QG des mouvements sociaux. Il y a comme ça toute une série d'activités, enfin il y a un programme chargé quoi.
Voilà, il y a des actions un peu dans différents domaines pour montrer que la société se dégrade et qu'on est dans une campagne électorale qui n'aborde pas du tout les questions sociales et donc qui menace que les privilèges se poursuivent. On voit bien que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, les classes moyennes, les classes populaires souffrent aujourd'hui, tandis que une poignée vivent dans l'opulence et amassent des sommes colossales sur le dos des ménages modestes. Alors, les salariés sont à la peine et les locataires aussi sont à la peine. Hein. Ils n'ont jamais payé des loyers aussi chers, il n'y a jamais eu autant d'expulsions. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'allier avec des syndicats de salariés, des associations de défense des chômeurs, de migrants et de défense des droits en général pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie, un meilleur partage des richesses. Ça passe automatiquement par ça aujourd'hui. Donc on fait campagne et on ne décourage pas. On a mené une action le 26 février là, pour lancer la campagne. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont eu lieu depuis.
Le 26 février, c'était l'ouverture d'un QG de campagne, voilà, hein, d'un QG des mouvements sociaux.
Voilà, le 26 février, c'était l'occupation d'un immeuble vide appartenant à la ville de Paris, un immense bâtiment, pour installer le QG des mouvements sociaux, mais également des sans-logis, parce qu'il y a de la place. Alors, finalement, on a été expulsés, mais au moins, on a obtenu que cet immeuble soit transformé en lieu d'hébergement pour les personnes et les familles sans abri qui sont de plus en plus nombreux à Paris jusqu'à début 2019 puisque les lieux vont rester vides. Bien, on verra également à conduire des actions aussi comme sur la question des banques,
l'évasion fiscale, voilà. Toute une semaine avec attaque notamment.
Ouais. Voilà, tout cet argent qui s'en va et qui va enrichir les actionnaires des banques et des grandes sociétés et alors qu'il devrait être utilisé justement à améliorer les conditions de vie de la population.
Alors, la fanfare invisible, c'est la fanfare officielle de cette contre-campagne, non ?
Ah, officielle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une fanfare qui dédie son action à soutenir les mal-logés, les sans-papiers, les gens qui sont rebuts, les gens qui sont nulle part, les gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Donc, on s'est assigné pour tâche de les faire entendre musicalement et aussi de soutenir les militants et les mouvements sociaux qui s'engagent par rapport à ces groupes-là, parce que la lutte est difficile, la lutte est fatigante, et des fois, la musique peut amener aussi une certaine légèreté, et puis aussi de la force, et puis un contenu dans ce répertoire, parce qu'on s'adosse sur un répertoire de chants de lutte qui est issu du patrimoine populaire depuis plusieurs dizaines d'années, quoi.
Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une envie de militants musiciens de s'agréger entre eux pour pouvoir accompagner ce mouvement social qui est frémissant, qui est une nécessité publique. Il faut des contre-pouvoirs, il faut être dans la rue, quoi.
La fanfare officielle du mouvement social, la fanfare invisible, devant la Bourse du Travail.
À qui on a l'honneur là ?
Là, c'est la fanfare invisible parce que dedans, on fait une réunion publique sur, comment dirais-je, c'est un espace commun qui s'appelle Nos droits, leurs privilèges. C'est un espace qui vise à dépolluer toutes les conneries qui se racontent dans la campagne électorale en ce moment. Notamment aujourd'hui, c'est sur l'emploi, sur le racisme, surtout rendez l'argent. Il y a un aspect qui est très marrant, c'est que tout le monde pleure et ils veulent savoir comment on finance. Voilà. Vous êtes aussi pour un média ?
Non, du tout.
C'est mon média perso, c'est
ouais, ça ? Oui, c'est vraiment mon média perso, c'est pour ma famille, parce que j'ai envie qu'on sache qu'il y ait des initiatives citoyennes.
C'est exactement ça. C'est un...
Bonsoir tout le monde. On a monté cette réunion, on a un programme très chargé, vous avez remarqué, avec Nos droits, leurs privilèges. Le 1er avril, on est dans la rue avec une espèce de lobby tour où on va aller voir un peu les privilégiés. Et puis, qu'est-ce qu'on pense ?
Alors, Dominique Plion, justement, rendez l'argent pour une transition écologique et sociale, et vous l'avez trouvé cet argent avec ATTAC, hein, c'est 200 milliards en tout cas, qui permettrait quand même de faire avancer quelques-uns de ces dossiers qui ont été traités aujourd'hui à la Bourse du Travail.
Tout à fait. Alors d'abord, ces 200 milliards, où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, on les trouve d'une manière très claire et très facile. Enfin, en tout cas, il faut se battre, mais c'est très clair pour nous. C'est d'abord la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a chaque année au moins 80 milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de l'État à cause de l'évasion fiscale. Donc, en se battant sérieusement contre l'évasion fiscale, on comble le déficit, parce que 80 milliards, c'est le déficit public. Ensuite, il y a deux, trois ou quatre ou cinq pistes qu'on évoque dans le rapport. Il y en a une, c'est tout simplement la taxation des transactions financières, qui a été promise et jamais mise en place sérieusement, et qui rapporterait au bas mot, si elle était mise en place sur l'ensemble des opérations financières, 35 à 36 milliards par an d'euros, donc rien que pour la France. Et puis, il y a ensuite un autre domaine où on veut se battre, et on pense que non seulement ça remplirait les caisses de l'État, mais ça permettrait aussi de lutter contre les inégalités, c'est la question des niches fiscales. Il y a comme ça un grand nombre de cadeaux fiscaux qui sont faits par l'État à une clientèle très particulière, par exemple aux ménages les plus aisés, en leur faisant des déductions fiscales quand ils investissent dans l'immobilier, qui est quelque chose qui est inacceptable et qui nuit finalement à l'équilibre des finances publiques. Un autre domaine qui est celui de la niche fiscale la plus grosse actuellement, qui coûte à peu près 40 milliards d'euros par an à l'État français, c'est ce qu'on appelle le CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est un gigantesque transfert de ressources qui est fait sous forme de déduction d'impôts et déduction fiscale par l'État aux entreprises, donc sur le dos des contribuables et des salariés. Eh bien, cette somme-là doit être récupérée parce qu'on s'est aperçu, et nous en étions convaincus dès le départ d'ailleurs, mais il y a eu des travaux, des rapports officiels qui le démontrent, que cet argent n'a aucun impact sur l'emploi, aucun impact sur la compétitivité, et que donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres, si on peut dire, qu'il faut absolument récupérer. Voilà.
Donc un rapport rendez l'argent qu'on trouve sur le site d'ATTAC.
Tout à fait, c'est un rapport qu'on trouve sur le site d'ATTAC, qu'on trouve sur le site de Mediapart, qu'on trouve sur le site d'un certain nombre d'organisations. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce rapport, nous l'avons rédigé, mais nous l'avons rédigé dans le cadre d'un espace qu'on intitule Nos droits, leurs privilèges, qui rassemble une quarantaine d'organisations qui ont contribué à ce rapport. C'est un rapport collectif et qui est là pour lancer la campagne que nous voulons développer, non seulement pendant la campagne électorale, mais au bien au-delà, parce que c'est un travail de longue haleine qui est absolument indispensable pour la société française.
Et avec une semaine d'action qui commence,
avec une semaine d'action
contre l'évasion fiscale.
Voilà, alors c'est une semaine mondiale qui a été décidée au dernier Forum social mondial à Montréal au mois de l'année dernière, où un grand nombre de pays, pratiquement tous les continents de la planète sont concernés, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, etc., pour lutter contre l'évasion fiscale et dénoncer le fait qu'il y a tellement de gens qui trichent avec la fiscalité, ce qui a deux conséquences gravissimes de tricher avec la fiscalité. C'est un, ça nuit à l'équilibre des finances publiques, mais aussi ça discrédite l'impôt. Parce qu'il y a plein de gens qui considèrent que l'impôt est injuste et qui disent pourquoi je paierais l'impôt s'il y a tellement de riches qui ne le payent pas. Et ça, discréditer l'impôt qui est un des fondements de nos sociétés démocratiques, c'est quelque chose de très grave.
Apple ne paye pas d'impôts en France, c'est un scandale.
Hier, Attac a publié un rapport intitulé « Rendez l'argent ».
Google ne paye pas d'impôts en France, ce n'est pas normal.
Et qui souligne combien la fraude ou l'évasion fiscale représentent des sommes colossales.
Starbucks ne paye pas d'impôts en France, c'est inadmissible. Je continue, le Qatar, l'UEFA, etc., etc. Manque à gagner, l'équivalent du déficit public annuel, près de 80 milliards d'euros. Quoi faire ? Rien ? Comme disait un petit poussin, dans mon enfance, en dessin animé, c'est vraiment trop injuste.
Pascal Pro.
Éric Halte, vous êtes magistrat et vice-président d'Anticor.
Oui.
Attac vient de publier un rapport, Rendez l'argent, et donc pour justement essayer de récupérer 200 milliards pour financer une transition sociale et écologique. Alors, est-ce que on a les moyens justement de les récupérer? Quels sont les moyens disponibles?
Alors, le vrai problème, c'est l'absence de moyens juridiques sur un plan européen. On est aujourd'hui un an après les Panama Papers. Évidemment, tout le monde est contre la fraude fiscale dans les paroles, mais quand il s'agit de regarder concrètement la façon d'améliorer le système, quand il s'agit de regarder quelles pourraient être les mesures techniques appropriées, c'est un combat. Et c'est encore politiquement incorrect. J'en veux pour preuve les difficultés de la Commission européenne qui travaille sur les Panama Papers depuis un an. Et pendant que cette Commission européenne travaille sur les Panama Papers, la liste noire des paradis fiscaux est toujours bloqué par le Royaume-Uni, le Luxembourg et l'Irlande. La directive sur la lutte contre l'évasion fiscale est toujours bloquée par les Pays-Bas. Et je ne parle pas du projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Donc l'idée d'avoir une même base pour l'impôt sur les sociétés dans tous les pays européens, c'est un sujet qui est aussi bloqué. Et donc je crains fort qu'on risque de se retrouver à la fin de l'enquête parlementaire sur les Panama Papers, un peu comme on s'est trouvé à la fin de l'enquête parlementaire sur les Luxembourg Leaks, c'est-à-dire qu'il y avait d'excellentes propositions, mais qui n'ont pas été mises en œuvre. Je rappelle que ce rapport parlementaire avait conclu qu'il fallait une protection des lanceurs d'alerte sur le plan européen. Il n'en est toujours rien. Et sur le plan national, il y a eu des initiatives intéressantes du législateur, et elles ont toutes été bloquées par le Conseil constitutionnel. Donc on voit que quand il s'agit de travailler concrètement sur la fraude fiscale, le combat est loin d'être gagné. Certes, globalement, on peut considérer que les choses avancent, mais elles avancent très lentement et le prix à payer, il est immense.
Mais Éric Halte, cette fraude fiscale et cette délinquance en col blanc, il faut la débusquer aussi. Il y a eu, il y a quelques jours, justement, un courrier de la part donc de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales qui dénonçait un manque de moyens et qui disait que la matière financière apparaissait comme le parent pauvre de l'investigation aujourd'hui en France.
C'est exact. Les officiers de police judiciaire spécialisés en matière de lutte contre la corruption et la fraude ont publié, ce qui est rare, a communiqué pour dire que la lutte contre ces fléaux était secondaire dans les priorités de l'État. Et c'est vrai que cet office qui a été créé après l'affaire Cahuzac, donc comme une réponse à l'affaire Cahuzac, n'est toujours qu'à 15 substituts. Et 15 substituts, c'est bien en deçà de ce qui avait été prévu à l'origine. Le nombre des personnels spécialisés affectés à la lutte contre la fraude fiscale, a diminué.
D'accord. Merci Eric Halt.
Merci.
Allez, au revoir.
Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Panama papers offshore. Offshore. Panama papers offshore. Offshore. Hold all back with the peso stuff. Still got a line down Broxford. Yeah. Panama papers offshore. Offshore. Panama papers offshore. Offshore. Hold all back with the peso stuff. Still got a line down Broxford. Country. I don't wanna eat no popcorn. Yeah. I don't wanna watch no Netflix. Nah. They wanna know my net worth, but they ain't never gonna get shit. Yeah.
Apple ne paye pas d'impôts en France, c'est un scandale. Google ne paye pas d'impôts en France, ce n'est pas normal. Starbucks ne paye pas d'impôts en France, c'est inadmissible. Je continue.
Bonjour, Lucie Vatrinet, je suis chargée de plaidoyer sur les questions fiscales au CCFD Terres Solidaires et je coordonne la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires.
Bonjour, Lison Rebinder, d'Actionnet France Peuple Solidaire, je suis chargée de mission justice fiscale.
Bonjour, Laura Vérec, je travaille à Corporate Europe Observatory, l'observatoire des lobbies à Bruxelles.
Bonjour, Olivier Petitjean, je suis journaliste pour Bastamag. Et
l'excellent Bastamag.
Et voilà, l'excellent Bastamag et l'encore meilleur observatoire des multinationales.
En route pour le Lobby Tour, spécial, évasion fiscale.
Le Lobby Tour va commencer.
C'est parti.
C'est pas la première fois qu'on se retrouve à se balader, à essayer de réfléchir avec nos pieds, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, parce que c'est devenu maintenant une manière, une technique pour essayer de raconter ce qui n'a pas d'image, ce qui n'a pas d'action, ce qui ne saute pas aux yeux et qui pourtant est on ne peut plus présent et actif dans notre quotidien. Et ça, c'est à l'occasion de cette semaine de mobilisation internationale sur les paradis fiscaux qui est organisée à partir de ce samedi et jusqu'à vendredi. Et là, on fait un lobby tour. Dans Paris, nous voilà dans les beaux quartiers. Qu'est-ce que c'est que cette semaine contre l'évasion fiscale ?
Donc cette semaine, ce n'est pas la première qui est organisée, mais c'est une semaine à l'appel de l'Alliance Globale pour la Justice Fiscale, qui est un réseau qui comprend plusieurs centaines d'organisations partout dans le monde. Et c'est effectivement à l'occasion de l'anniversaire des Panama Papers, ce sera le 3 avril 2017, qu'on s'est dit que ça valait le coup de remettre ce sujet-là au cœur de l'actualité, de montrer que c'est un sujet qui mobilise les gens. Nous, en France, en plus, on a une actualité particulière avec la campagne électorale. Et donc l'idée, c'est de se dire on va faire plusieurs actions à plusieurs moments dans cette semaine, différents partenaires, différents modes d'action. Donc le lobby tour, ça nous semblait intéressant de faire un lobby tour spécial taxe pour essayer justement de mettre en lumière qui sont ceux qui aujourd'hui non seulement pratiquent une forme d'évasion fiscale mais aussi empêchent des mesures de justice fiscale d'advenir.
Parce que c'est des sommes astronomiques à l'échelle européenne. Il y a des estimations qui sont faites de 1000 milliards d'euros par an qui donc échappent aux finances publiques et qui donc échappent aux contribuables.
Tous ces impôts qui échappent à l'État, c'est des ressources qui devraient être utilisées pour les services publics, pour la lutte contre les inégalités, pour les droits des femmes.
Mais ce qu'on nous dit tout le temps pendant la campagne, c'est austérité, rembourser la dette, on n'a plus d'argent, il faut réduire les lits, fermer des gares.
Et c'est pour ça que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale est particulièrement importante, parce que ce sont des ressources qui existent. Et quand il y a des besoins criants en termes d'accès à des services publics pour assurer les droits fondamentaux, les entreprises qui font de l'évasion fiscale ont un impact très grave sur la vie des gens.
C'est combien en France d'ailleurs ?
On parle de 60 à 80 milliards d'euros par an.
Ah oui.
C'est l'équivalent du déficit public.
Effectivement, l'évasion fiscale, c'est un peu la base de ce qui va mal avec le système actuel, parce que c'est ce qui permet aux multinationales et à tous ceux qui sont derrière les multinationales, c'est-à-dire leurs dirigeants, les actionnaires, les milliardaires, de s'accaparer une partie de plus en plus importante des richesses pour eux et de faire supporter au reste de la société les coûts de leurs activités. Et donc effectivement, il faut s'attaquer à ce qui est un peu le nerf de la guerre, ce qui est la financiarisation des entreprises. Pour plus de transparence et contre tous ceux qui profitent un peu de ce système d'offshoreisation de l'économie. Et c'est un peu toutes les institutions diverses et variées qu'on va voir aujourd'hui.
Notre gros mot du jour a un parfum de scandale. Il met en cause des enseignes aussi connues qu'Amazon, Google, McDonald's, BNP Paribas et des centaines d'autres. Ce gros mot, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est optimisation fiscale.
Bonsoir, vous aimez le monde des affaires, vous allez adorer.
Ça ne vous plaît peut-être pas, mais c'est la réalité.
Le déficit public, c'est l'élément constitutif de notre dette. Nous dépensons trop.
Alors voilà, nous, on va essayer de contrer, en tout cas d'apporter la lumière, c'est toujours cette même stratégie Dracula, apporter la lumière là où on préfère travailler tranquillement entre soi et loin des médias, avec un plan de bataille. Et quand je dis plan de bataille, je parle vraiment d'un plan de bataille, puisque là vous m'avez donné un plan, une carte, avec le quartier de Paris où on se retrouve. C'est le 8e arrondissement, pas loin de la salle Gaveau, c'est ça?
Exactement, c'est à l'angle de la rue, là.
Avenue Delcassé.
On est devant un building qui s'appelle le building Gaveau, qui n'a aucune plaque. Et donc, c'est intéressant de commencer par ici, parce que ça montre la réalité de ce que c'est le lobbying aujourd'hui. Voilà. Et donc, ici, on est au siège d'une association qui s'appelle l'AFEP, Association des Françaises des Entreprises Privées. Alors, quand on parle de patronat en France, on pense MEDEF, mais en fait, ici, on a l'AFEP qui représente en fait toutes les grandes entreprises, alors que le MEDEF est censé représenter, en tout cas, y compris les petites entreprises.
Et on ici, voit... c'est pas les PME, quoi.
Ah non, ici, c'est vraiment les 100 plus grandes entreprises françaises. Et jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, ils avaient même pas de site web, c'était une entité très discrète. Mais la fiscalité, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est un des grands chevaux de bataille depuis très longtemps de l'AFEP. Ils se sont battus contre toutes les formes d'écotaxes, ils se sont battus sur ce sujet.
Ils n'étaient pas, je vous coupe 2 secondes, eux, ils n'étaient pas en train de détruire les portiques d'écotaxes, mais ils participaient voilà. au même travail pour saborder cette taxe qui devait permettre de financer la conversion énergétique, c'est ça?
Exactement, donc ils ont, de toute manière, peut-être encore plus influente que tous les mouvements qu'on avait sur le terrain, au plus haut niveau, ils poussaient. Dès les premières versions, au tout début des années 2000, ils se battaient contre. Et ils se battent contre le poids de la fiscalité, alors ça c'est vraiment le leitmotiv de la FEP, il y a toujours trop d'impôts en France, surtout sur les grandes entreprises, ça nuit à la compétitivité, et ils se battent contre la transparence fiscale.
C'est vrai que c'est assez marquant de voir cet immeuble sans aucune plaque, sans rien, on sait combien de personnes y bossent, on sait...
Il y a à ma connaissance, les chiffres qui circulent, c'est 20aine de personnes. Ils publient un rapport annuel, le chiffre y est peut-être, mais depuis 3 ans, ils publient un rapport annuel anodin d'apparence qui ne rend pas vraiment compte de leur vraie influence réelle sur les politiques en France. Influence qui s'exerce vraiment loin des regards du public.
Et on continue de balade, heureusement c'est un jour ensoleillé. Heureusement on est dans les quartiers hautement favorisés de Paris. Et alors je retourne vers vous Laura, avec votre carte et sur le plan de bataille, c'est quoi la prochaine destination, la prochaine étape de notre lobby tour?
C'est la Société Générale, la prochaine étape.
Vous vous demandez certainement où la Société Générale cache l'argent que vous lui avez confié. Eh bien, un homme s'en est chargé. Et maintenant, cet homme fait une sacrée teuf. Parce qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour ramasser un maximum de blé et partir au soleil. Société Générale, la générosité, c'est notre métier.
Nous voilà donc face à la Société Générale, qui a été particulièrement visée dans le scandale des Panama Papers, donc le 3 avril 2016, parce qu'en fait, c'est la banque qui figurait dans le top 5 des banques qui avaient créé, via le cabinet panaméen Mossack Fonseca, le plus de sociétés offshore dans le monde.
Cocorico National.
Cocorico National, oui, top 5, c'était pas mal. Donc c'est peut-être l'occasion de revenir rapidement sur ce scandale planétaire. Ça a été la plus grosse fuite d'informations de l'histoire du journalisme, qui est sortie donc, dans plein de pays en parallèle, coordonnée par l'ICIJ.
Consortium international des journalistes d'investigation.
Exactement, je vous remercie. Et qui a montré en fait comment, via un seul cabinet au Panama, le cabinet Mossack Fonseca, c'était créé des dizaines de milliers de sociétés offshore par-delà le monde. Donc vous aviez une société au Luxembourg qui était détenue par quelqu'un qui était situé aux îles Vierges Britanniques, qui était elle-même détenue par quelqu'un qui était situé au Panama, qui était ce qu'on appelle des sociétés écrans. Quand vous ne pouvez pas connaître le vrai propriétaire, c'est un vrai souci parce que ça permet évidemment de cacher l'argent de la fraude fiscale, mais aussi de l'argent du crime. À partir du moment où vous pouvez le placer sur des sociétés où on ne connaît pas le propriétaire, ça facilite quand même un peu les choses. Donc c'était ça qui était au cœur des Panama Papers. Et la Société Générale s'est retrouvée pointée du doigt parce qu'elle avait demandé au cabinet Mossack Fonseca d'ouvrir, j'ai les chiffres, 979 sociétés offshore.
979 sociétés.
Entre 1977 et 2015. Et donc, du coup, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on dit Panama Papers, Panama Papers. Oui, parce que le cabinet est panaméen. Mais ces sociétés offshore, elles n'ont pas toutes été créées au Panama. Il y en a qui ont été créées en Suisse, au Luxembourg. Enfin, c'est d'autres paradis fiscaux, beaucoup plus proches de nous, beaucoup moins exotiques, beaucoup moins cocotiers et sable chaud, qui ont été visés. Donc ça, il faut quand même bien l'avoir en tête. Et ce qui est intéressant aussi, moi, ce qu'on voulait souligner par rapport à la Société Générale, c'est qu'il y a un petit tollé qui s'est créé parce que Frédéric Oudéa, donc le directeur de la Société Générale, il avait été auditionné quelques années auparavant par le Sénat sur les pratiques de la banque et il avait dit que la banque n'avait plus aucune activité au Panama ni dans un autre territoire non coopératif.
Ça, c'était quand ?
Ça, c'était en 2012.
Bonjour Frédéric Oudéa.
Patrick Cohen, bonjour.
Vous dirigez la Société Générale depuis 2008. Votre présence, la présence des banques françaises encore dans les paradis fiscaux. Il y a un rapport récent de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires qui regroupe plusieurs associations et ONG. La Société Générale, ai-je lu, compterait 139 filiales dans les paradis fiscaux.
Nous n'avons plus de filiales dans les paradis fiscaux.
Vous êtes présent aux îles Caïmans, par exemple.
On n'est pas, j'ai pas en tête qu'on soit présent aux îles Caïmans.
Non.
Non.
Vous n'avez pas de filiale aux îles Caïmans.
J'ai pas en tête la totalité de nos filiales. Je le répète, nous sommes en ligne totalement avec les réglementations.
Aux Bermudes. Aux Bermudes.
Ah ouais, voilà, d'accord, mais
lis dans le rapport.
Donc au moment où les Panama Papers ont éclaté, nous on a fait des courriers auprès des sénateurs qui l'avaient auditionné. Il y a monsieur Éric Bocquet qui est donc un sénateur communiste qui a dit que en gros le bureau du Sénat devait porter plainte pour faux témoignage.
Parce que c'est sous serment.
Mais il n'y avait que le bureau du Sénat qui avait la possibilité de porter plainte pour faux témoignage. Ils ont décidé de ne pas le faire. Mais franchement, à un moment donné, je pense que monsieur Oudéa a eu quand même chaud à ce niveau-là.
Très bien. Société Générale, c'est quoi leur slogan ? Comment reconnaître une banque française mutualiste. Facile, au logo Société Générale sur la façade. Alors voilà, ça c'est le logo sur la façade. Et puis il y a l'arrière-boutique. C'est ça que vous nous révélez les uns et les autres à l'occasion de ce lobby tour sur l'évasion fiscale chez nous. Pas au Panama, au Bahamas, mais nous voilà au plein cœur de Paris.
Donc voilà, on arrive devant le siège de Sanofi.
Sanofi, donc industrie pharmaceutique.
Alors pourquoi on est devant Sanofi ? En France, on a une niche fiscale d'évasion fiscale made in France qui s'appelle le crédit impôt recherche. Alors théoriquement, le crédit impôt recherche, c'est censé encourager la recherche. Et donc ça permet aux entreprises qui font de la recherche d'économiser sur leurs impôts.
Parce que ce que disent beaucoup des entreprises qui font ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est bien sûr, bah, moins on paye d'impôts, plus on peut investir dans la recherche, embaucher.
Exactement, mais le problème c'est qu'avec Sanofi on est vraiment dans une version caricaturale de l'inanité de ces discours, parce que Sanofi c'est une entreprise qui a enchaîné les plans de restructuration en France et notamment dans la recherche et développement. Il y a eu cette lutte emblématique à Toulouse, on estime environ à 5000 emplois le nombre supprimé en France depuis 2008, et donc une partie importante de la recherche et développement. Dans le même moment, Sanofi reçoit environ tous les ans 130 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche.
C'est-à-dire, c'est payant moins d'impôts, quoi.
Voilà, payant moins d'impôts, tout à fait.
Alors, il va où, cet argent ?
Bah, il va dans les poches des actionnaires. Alors, j'ai noté les chiffres. En 2016, Sanofi a versé 6,7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Il va dans les poches de ses dirigeants. Le départ de l'ancien directeur général Chris Wiebacker, 4,5 millions d'euros de prime de départ.
Ça s'appelle Golden Parachute, parachute voilà. Doré.
Mais ils ont inventé la prime d'accueil pour celui qui est arrivé, Olivier Brandicourt, 4 millions d'euros pour son arrivée.
C'est le Golden Welcome.
Et donc c'est vraiment l'illustration, comme je disais, caricaturale de la manière dont une entreprise aujourd'hui s'accapare des profits aux dépens de la société ou de ce qui se devrait être son ardoise fiscale normale et pour une certaine catégorie d'acteurs qui sont les actionnaires, les investisseurs et les dirigeants. Et on est vraiment dans cette logique du dumping fiscal, en fait.
Du moins 10 ans.
Qui ne crée aucune nouvelle activité, mais qui sert juste à attraper les activités qui sont localisées dans d'autres pays. Et ça, c'est exactement ce que fait le Luxembourg, ou la Suisse, ou la Belgique. Donc la France est également dans cette logique.
Sanofi, troisième pharmacien du monde.
Bravo pour ta promotion.
Fatigue, des brûlures d'estomac et remontée acide. Heureusement, il y a Pralox.
Le champion français dont les 48 usines françaises sortent de 6 années de restructuration permanente. Et il y a eu à la clé 1300 suppressions nettes de postes.
Vous soulage durablement des maux d'estomac pendant 24 heures.
7 milliards de profits. Voilà, donc la situation est bonne.
Une pratique donc tout à fait légale, mais somme toute aussi assez immorale.
Médicaments indiqués dans les brûlures d'estomac et remontée acide. Pas avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 2 semaines de traitement continu, consultez votre médecin.
Bon, alors, une suite de notre balade dans les beaux quartiers. Et là, c'est pas une banque où on se retrouve.
Alors, on est à Starbucks. On se disait qu'on allait faire une pause café.
Eh ben allons-y alors, tiens.
On plaisante. On va rester.
Vous voulez qu'on se prenne un truc à boire, vite fait?
J'ai pas forcément envie de donner de l'argent à Starbucks.
Surtout qu'en fait, ils nous en doivent.
Surtout qu'en fait, c'est de l'argent qu'on ne sait pas forcément dans les poches de qui il atterrit. Est-ce qu'il revient dans les poches des États?
Parce que alors, Starbucks, c'est cette chaîne de café américaine qui a prospéré ces 15 dernières années un peu partout dans le monde et maintenant qui fait la concurrence au vrai bistrot parisien.
Et c'est intéressant parce que c'est une des premières multinationales à s'être retrouvée au cœur d'une controverse sur ses impôts. En 2012, on a appris que Starbucks, malgré des ventes très importantes, notamment au Royaume-Uni, n'avait pas payé d'impôts depuis 3 ans.
Pas du tout.
Pas d'impôt sur ses revenus. Donc comment c'est possible que Starbucks, qui réalisait, d'après Reuters, 1,2 milliard de pounds de ventes,
de livres, donc,
ne paye pas d'impôt du tout au Royaume-Uni, Starbucks facture des redevances sur l'usage de sa marque. Sur chaque chose que vous achetez chez Starbucks, vous avez ce petit logo sympa que vous connaissez sûrement. Et en fait, pour l'usage de cette marque, la filiale au Royaume-Uni paye l'usage de la redevance à la maison mère qui serait donc aux Pays-Bas.
C'est-à-dire que Starbucks Angleterre, par exemple, ou Starbucks France, donne des sous à Starbucks Pays-Bas.
Tout à fait.
Pour pouvoir nous vendre à nous du Starbucks.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne, en 2014, avait ouvert une enquête sur les taux d'imposition bas qu'avaient accordé les Pays-Bas à Starbucks. Et après 2 ans d'enquête, Starbucks a été condamné à payer aux Pays-Bas. Ce qui
30 millions d'amendes de la Commission européenne, j'ai lu.
Et ce qui est quand même une somme considérable, mais les Pays-Bas ont tout de suite fait appel. Et c'est quand même étonnant de se dire, mais pourquoi le Pays-Bas a fait appel ? 30 millions qui arrivent dans les poches.
Les Pays-Bas ont dit, on n'en veut pas, on n'en veut pas.
On n'en veut pas, on n'en veut pas. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il y a un vrai problème de concurrence fiscale, que les États se tirent dans les pattes. Qu'ils ont l'impression qu'en baissant leur taux d'imposition, en continuant à proposer ces taux très avantageux aux entreprises, ils vont créer de l'emploi, créer du marché, etc. Or, on n'a pas vraiment de preuves de ça. Là, on a juste une course vers le bas, un nivellement vraiment du taux d'imposition. Il y a un vrai problème aussi des États qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne demandent pas à ces entreprises de payer leur juste part d'impôts, tandis que les PME sont amenées à le faire et que les citoyens le font également. C'est un problème.
Quand le café du coin qui est juste en face, lui, il paye ses impôts.
C'est plus de 30% en France, normalement, d'imposition sur les entreprises.
Et le Starbucks qui vient juste en face, lui, par ses manœuvres fiscales apparemment légales, paye zéro. Voilà comment on arrive à ce que vous écrivez. Starbucks, la chaîne qui vous offre un café garantie 100% sans contribution fiscale. Starbucks be filling up my cup. Starbucks be jacking me up. Starbucks 10,000 degrees. And yeah, I'll take a Danish, I need something to eat.
C'est pour ça que je vous propose qu'on n'aille pas forcément boire un café à Starbucks aujourd'hui.
Bon, d'accord, d'accord. C'est vraiment parce que vous le demandez. Attends, je vais demander à ces messieurs. Bonjour messieurs, vous êtes à la terrasse du Starbucks. Vous travaillez dans le quartier ?
Ouais, on travaille dans le quartier.
Est-ce que vous savez combien Starbucks paye d'impôts ? Une fourchette à la louche, essayez de me dire.
Zéro.
Exactement.
Ils doivent payer, faire tout leur résultat à l'étranger.
Exactement. Et c'est bien ?
Ouais, tant mieux pour eux. Hein. Tant mieux pour eux, s'ils y arrivent, ça veut dire qu'il y a des mécanismes en France qui n'empêchent pas de faire ça. Donc après, si on met pas en place des mécanismes, bah...
Ouais, mais le petit troquet d'en face qui fait le café lui aussi, lui, il paiera 33%.
Oui, mais s'il avait une possibilité de ne pas les payer et qu'on lui donne, je pense qu'il essaierait de le faire aussi.
D'accord, bon, bah, je vous laisse savourer. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Ah, il trouve ça très bien.
Actuellement, les critiques pleuvent sur les politiques d'un certain nombre de pays membres de l'Union dont l'objectif est d'attirer les entreprises en leur offrant un cadre fiscal favorable. Le Luxembourg, l'Irlande, Malte, la Belgique, Chypre ou bien encore Gibraltar sont visés par des enquêtes sur des accords fiscaux avec des multinationales.
Mais là, je vois les deux messieurs que j'ai brièvement interpellés en terrasse qui étaient en costard-cravate digne d'un avocat fiscaliste. Ce qui ne serait pas étonnant dans ce quartier, avec une des plus fortes concentrations d'avocats d'affaires au mètre carré, c'est ils ne payent pas d'impôts, tant mieux pour eux.
C'est ça qu'ils ont dit, hein? C'est dingue, mais non, mais c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment sur un truc complètement... Enfin, on parlait tout à l'heure de côté culturel de la chose, mais en fait, il y a quelque chose à renverser en termes de comment on pense l'impôt. C'est-à-dire que c'est plutôt bien vu, en fait, de réussir à payer pas beaucoup d'impôts. Enfin, les gens, ils déconnectent complètement ça de tous les services publics dont ils profitent en permanence sans s'en rendre
compte. Se plaindre qu'il n'y a pas assez de policiers, oui, qu'il n'y a pas assez d'infirmiers, gens, qu'il y a...
Enfin, les poubelles qu'on ramasse, enfin, on bénéficie quand même de tout un tas de services publics au quotidien. Et en fait, les gens ne font pas le lien, quoi. C'est complètement fou. Et là, en plus, on ne parle même pas de leurs impôts à eux. On parle d'une entreprise qui s'installe sur un territoire, qui prend des parts de marché, qui tue le petit commerce. Et après, on dit, ah oui, tant mieux pour eux s'ils ne payent pas d'impôts. Mais en fait, il y a tout...
Mais il y a aussi le fait qu'on considère l'impôt comme un coût pour l'entreprise. Alors qu'en fait, au-delà de nous, là, individus qui bénéficions des services publics, les entreprises, elles bénéficient aussi de nos infrastructures, des routes, des lumières, des employés formés par l'école. Et en fait, l'impôt, c'est pas un coût dans...
De la même manière que pour un salaire, c'est pas des charges sociales, mais c'est du salaire indirect.
C'est une vision qui est complètement biaisée, en fait. On se rend plus compte qu'à un moment, c'est une contrepartie pour tout ce dont on bénéficie et ça rentre effectivement dans le contrat social.
D'où cette mobilisation contre l'évasion fiscale, qui, je le répète, 60 à 80 milliards rien que pour la France, 1000 milliards d'euros estimés pour l'Europe, alors même qu'on court après les déficits, alors même qu'on court après la réduction des dépenses publiques.
Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile.
Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains.
Mais il faut le payer, madame.
Mais oui, donc on attend de votre part. Il faut
que je fasse de la dette supplémentaire.
Pas de dette.
Bah oui, mais si, c'est
pas
ça
de
aujourd'hui.
Dette.
Bah oui.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci. Mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton trombonnet, ta clarinette. Si tu ne veux pas payer la peau, cache ton piano.
Alors on est toujours dans le 8e arrondissement, une petite rue tranquille. C'est une petite voie privée. On a même passé un petit portique pour pouvoir y rentrer.
Et c'est un peu pour parler d'une chose dont on ne parle pas souvent quand on parle d'évasion fiscale, ce sont les cabinets d'avocats et l'arbitrage. Et donc là, vous êtes devant Freshfield Brookhouse Deringer, je prononce certainement très mal.
Mais là, en tout cas, il y a un nom sur la plaque.
Exactement.
Avec un symbole qui est intéressant, c'est leur logo, c'est un petit ange avec une espèce de lance.
L'ange de la justice.
En fait, Freshfield, c'est un cabinet d'avocats qui vient du Royaume-Uni et qui existe depuis 1743. Et la raison pour laquelle on s'arrête ici, c'est parce que ce sont les avocats qui fournissent le plus d'avocats et d'arbitres dans les procédures investisseurs-État. Donc on a beaucoup entendu parler avec le TAFTA et elles sont dans le CETA.
Le TAFTA, c'est le traité de libre-échange transatlantique et le CETA, ce qui a été signé.
Il a été voté il y a un mois et demi au niveau du Parlement européen.
Qui libéralise les échanges entre le Canada et l'Europe.
Alors il libéralise ces échanges, mais il offre aussi des droits aux investisseurs. Et c'est sur la base de ces droits que les investisseurs utilisent souvent ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage. Donc en fait, ça leur donne leur droit d'accéder à une justice parallèle et privée.
D'attaquer les États.
Exactement. Et ils le font sur des questions fiscales également. Et le cabinet qui le représente le plus souvent les investisseurs, c'est Freshfields. Et il y a un cas d'entreprise française. Total a mis en justice l'Ouganda en 2015. Parce que Total estime avoir droit à un crédit d'impôt sur ses opérations ougandaises, alors que le gouvernement...
Un pays très riche, comme chacun le sait.
Et le gouvernement ouganda, lui, demande des comptes à Total, et Total refusant de payer, ils ont mis en justice l'Ouganda. Donc ça, ça a lieu en 2015.
Pour finir sur Total, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais Total, en 2014, a payé 0% d'impôts en France, malgré un chiffre d'affaires à trois chiffres, voilà. De millions. Justement, Olivier, une petite précision, vous qui travaillez à l'Observatoire des multinationales, les multinationales, les grands groupes internationaux, maintenant font la taille d'État. Leur chiffre d'affaires dépasse le produit intérieur brut de certains pays. Et voilà maintenant, non seulement ils sont érigés à la taille et au poids critique des États, mais ils peuvent poursuivre, attaquer et faire condamner des États pour des lois démocratiquement votées qui contreviennent à leurs impératifs à eux de profit.
Exactement, et c'est dans le cadre de procédures où Total a les moyens de se payer des dizaines et des dizaines d'avocats, de faire un suivi juridique que n'ont pas ni l'Ouganda ni même le Nigeria. Et donc c'est des procédures où les pays sont structurellement désavantagés et souvent dépendent de cabinets d'avocats qui travaillent par ailleurs pour des multinationales. Donc ils sont obligés de s'adapter aux règles du jeu qu'ont fixées les multinationales. Donc c'est vraiment les multinationales qui fixent les règles du jeu, y compris juridiques, et les États qui s'adaptent et pas l'inverse.
Et dans la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, on est plusieurs ONG à être venus sur la question de la justice fiscale. Aussi, d'abord parce que c'est une question de développement et de justice nord-sud. C'est que là, on est dans le 8e, etc. Mais en fait, tous les acteurs qu'on rencontre et les grandes entreprises, souvent, qui sont aussi implantées dans des pays en développement, quand elles évitent de payer de l'impôt, elles ont un impact très fort sur le développement de ces pays.
C'est-à-dire que là, les avocats qu'on voit en train de faire leur pause cigarette devant le cabinet Freshfield ici, dans le 8e arrondissement, on ne va pas aller les déranger parce que leur temps coûte cher, mais ils participent à faire mordre la poussière à des pays pauvres à travers des tribunaux d'arbitrage. Potentiellement. Parce que je dis ça parce que c'est des avocats, donc on va pas dire des bêtises pour pas se faire attaquer en diffamation et tout ça non plus.
Les pratiques d'évasion fiscale, quand les entreprises font le maximum d'efforts pour ne pas payer d'impôts, ça a un impact vraiment concret sur des pays en développement. Des impôts pas payés, c'est très concrètement des hôpitaux, des écoles. Les pays perdent au titre de l'évasion fiscale 10 fois plus que ce qu'ils ne gagnent au titre de l'aide au développement. Vous vous rendez compte de la différence, c'est qu'en fait, ils ne sont pas forcément déficitaires. Ils pourraient aussi avoir des moyens si les entreprises qui se servent notamment de leurs ressources sur leur sol, mais aussi de leur marché, payaient leur juste part d'impôts.
Plutôt que les aider en leur envoyant de l'aide comme à des mendiants, autant que les entreprises leur payent ce qu'elles leur doivent.
Les entreprises doivent payer leur juste part d'impôts, et à ce moment-là, il y aura une vraie différence.
Maintenant, il faut trouver un café qui ne défiscalise pas où se poser. Parce que déjà, McDonald's, avec ses 1400 restaurants en France, 24% de leur chiffre d'affaires est domicilié dans les paradis fiscaux, ce qui fait 1 milliard d'euros d'impôts évités par McDonald's en France depuis 4 ans. Et ses activités financières ont été basées au Luxembourg, puis à Londres. On n'aura pas non plus parlé encore de Apple, dont les profits sont délocalisés en Irlande, où il y a moins de 2% d'impôts payés. Donc un manque à gagner de 13 milliards d'euros pour l'Europe. Ce qui fait aussi qu'en 2014, le taux réel d'imposition d'Apple en Irlande, tenez-vous bien, était de 0,005%.
Apple ne paye pas d'impôts en France, c'est un scandale. Google ne paye pas d'impôts en France, ce n'est pas normal. Starbucks ne paye pas d'impôts en France, c'est inadmissible. Je continue, le Qatar.
Retour en France avec la dernière action coup de poing d'attaque qui s'en est pris ce matin à un Apple Store. Dans Paris, la devanture de la boutique de Saint-Germain-des-Prés a été repeinte en blanc par l'organisation altermondialiste. Des militants ont voulu rendre opaques les vitrines pour dénoncer l'évasion fiscale pratiquée selon eux par le géant américain. Do it again.
Apple ne paye pas d'impôts en France, c'est un scandale.
Ok, on va y aller. Je vous invite, donc on y va tous. Ils vont commencer à peindre dans une minute, ils vont arriver sur la gauche.
Marché Saint-Germain, rendez l'argent.
Ce n'est pas la lanceur d'alerte qu'il faut juger, c'est l'évasion fiscale en bande organisée.
Ah, et il y a une petite équipe là, effectivement, de peintres en bâtiment, avec l'escabeau, les combinaisons de peintres. Ah, donc c'est un chantier de peinture.
C'est un chantier de peinture de bon matin au Apple du Marché Saint-Germain. Blanchiment au blanc de Meudon pour dénoncer l'opacité fiscale d'Apple.
Apple délocalise ses profits en Irlande pour payer moins de 2% d'impôts. Apple doit rembourser 13 milliards d'euros. L'impunité fiscale, ça suffit, rendez l'argent. En musique. Et voilà, ils sont, la façade est en train d'être repeinte au blanc de Meudon.
3, 4, 1.
C'est du blanc de Meudon, c'est
blanc
ça
de Meudon. Donc c'est pour montrer l'opacité, effectivement.
Du coup, cette belle vitrine devient opaque.
Elle devient opaque parce que c'est exactement conforme aux pratiques, effectivement, d'Apple concernant l'évasion fiscale. Ils sont dans une grande opacité. Et donc, on est là pour symboliquement montrer, effectivement, qu'il faut faire en sorte que cette opacité disparaisse. Voilà.
Allez, on y va. Laissez-vous emporter par la masse.
C'est les travailleurs détachés d'attaque, c'est ça?
C'est ça, exactement. On est devant le marché Saint-Germain, la boutique luxueuse Apple au marché Saint-Germain. Et pour dire à Apple, vous devez rendre l'argent en France à l'État français, puisque une partie de vos activités qui sont déclarées en Irlande sont des activités sur le sol français. Alors c'est vrai que la campagne présidentielle pour l'instant est accaparée par un certain nombre d'événements qui n'étaient pas forcément prévus. Mais en tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est vraiment dans le programme des candidats qu'il y ait des engagements forts. Qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu avec M. Hollande qui disait que son ennemi c'était la finance et il a mis en place des mesures qui sont complètement contraires à ce qu'il avait déclaré. Donc aujourd'hui, il y a à la fois besoin que dans le débat politique, il y ait des engagements forts, mais en tous les cas, pour Attac, ce qui est important aussi, c'est la mobilisation citoyenne, parce qu'on sait que sans cette mobilisation citoyenne, même s'il y a des promesses importantes et intéressantes, elles ne seront pas forcément suivies des faits.
De l'argent, il y en a dans les coffres au Panama.
Merci à tous.
Merci.
Esta es la cumbia del Panama Papers. Hey, hey, hey. El que no se prende, que se joda.
Et voilà, et donc tout ça c'est pour dire que c'est une première action qui va être ensuite répétée, notamment dans la semaine internationale contre les paradis fiscaux, donc du 1er au 7 avril, qui fête l'anniversaire des Panama Papers. Et donc on sera encore de nouveau présent pour cette semaine-là avec de multiples actions. Merci à tous.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Vous y trouverez notamment les liens et les dates des prochaines actions de cette semaine mondiale de lutte contre l'évasion fiscale. Et le prochain Lobby Tour, par exemple, ça sera mardi 4 avril à 18h. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des messages et à faire courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court, hashtag comme un bruit. Et on se retrouve samedi prochain à 16h.